Bonjour et bienvenue. Non, ce n'est pas mardi, mais bien mercredi 24 janvier 2018. Hélène Denis, heureuse de vous retrouver. Bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour Hélène.
Alors, hier, on a eu un congé. C'était pas prévu, mais la pluie verglaçante nous a invités à rester chez nous.
Et c'était fort sage comme décision.
Vraiment, parce que c'était extrêmement périlleux toute la journée.
Absolument.
Il y en avait de la glace. Et il y en a encore ce matin. Là. Il faut être prudent sur les routes, surtout les petites routes, puis sur les trottoirs.
Absolument. Je rentabilise beaucoup mon acquisition de crampons par les temps qui courent.
Est-ce que ça marche vraiment? J'ai toujours peur que ça ne soit pas assez adhérent.
Ben, il existe, pour faire une parenthèse rapide, il y a plusieurs types de crampons. Il y a ceux avec les pics, mais ceux que j'ai, c'est des spirales. Donc, ça fonctionne bien dans la glace. Ça fonctionne bien lorsqu'on se retrouve sur le pavé et qu'il n'y a pas de glace. Mais quand on arrive sur la céramique, exemple, quand on rentre dans une station de métro, là, ça peut être un petit peu glissant.
D'accord. Il n'y a rien de parfait.
Il n'y a absolument rien de parfait. Et sans plus...
Tarder.
Sans plus autre parenthèse, 24 janvier, nous sommes la journée internationale du sport féminin.
Ah oui.
Événement marquant pour un 24 janvier, d'abord en 1848, découverte d'or en Californie, c'est le début de la ruée vers l'or. 1875, première de la danse macabre, pièce musicale figurative composée par Camille Saint-Saëns. 1909, béatification de Jeanne d'Arc. 24 janvier 1924, trois jours après la mort de Lénine, Petrograd devient Leningrad en l'honneur du fondateur de l'Union soviétique, elle qui redeviendra par la suite Saint-Pétersbourg. 1935, apparition de la canette de bière, une petite révolution qui fera fureur. Frôler la catastrophe, et là je lis ça ce matin et j'ai l'impression de retomber dans un événement que j'ai lu lundi et un autre événement que j'ai lu la semaine dernière, vous allez comprendre pourquoi. Cette fois le 24 janvier 1961, au-dessus d'une petite ville de Caroline du Nord, en perte de carburant, un Boeing B-52 explose.
Un autre
B-52, celui-ci n'avait, pour le dire ainsi, n'avait que deux bombes atomiques, contrairement aux autres qui avaient 4 et 5 bombes hydrogène. Les deux bombes atomiques n'éclateront pas. 5 des 8 aviateurs survivront. Donc c'est quand même dangereux d'être à bord d'un B-52.
Oui, ça fait peur.
1975, peu après les 13 meurtres du bar Gargantua de Montréal, le gangster Richard Blass est abattu par des policiers à Val-David. 24 janvier 1984, le fabricant Apple lance son premier ordinateur, Macintosh. 1988, à Sainte-Clotilde, près de Victoriaville, un incendie dans un hospice cause la mort de 9 patients ayant un handicap mental. 24 janvier 1996, le ministre du Patrimoine canadien, Michel Dupuis, désigne le pont de Québec, lieu historique national. Il est le pont le plus important de l'histoire quand on fait référence au génie civil canadien. Le ministre fédéral des Transports, Jean-Yves Duclos, a par ailleurs rappelé à l'époque que le pont, la structure du pont est jugée sécuritaire jusqu'en 2088, et ce, sans avoir à y ajouter un gallon de peinture, et ça fait écho un petit peu à l'actualité des dernières années concernant le look de ce pont de Québec. 2006, les studios Walt Disney font l'acquisition des studios Pixar, ce studio d'animation 3D derrière plusieurs longs métrages, dont Histoire de jouets. 2009, encore un 24 janvier, la direction du Journal de Montréal décrète un lockout à l'égard de ses 250 employés de la rédaction et de bureau.
On fêtera pas ça aujourd'hui.
On n'en fait pas, mais on mentionne quand même, parce que ça fait partie de l'histoire.
Ça, c'est sûr.
24 janvier 2013, la chef autochtone canadienne Teresa Spence quitte l'hôpital où elle avait été gardée en observation après avoir mis fin à un jeûne, à une grève de la faim de 44 jours, anniversaire de naissance en ce 24 janvier en 1705, naissance de Farinelli, le castrat italien. 1984, Benoît Huot, nageur paralympique québécois, vedette montante, vedette établie dans le monde de la natation et le paralympisme. Et les décès en ce 24 janvier, l'empereur romain Caligula est décédé en l'an 41, un 24 janvier. Et finalement, décédé en 1965, le reporter et homme d'État d'anglais, qui a été également un symbole de résistance lors de la Seconde Guerre mondiale, M. Winston Churchill.
D'ailleurs, il y a un film fantastique qu'il faut voir, et celui qui l'incarne va probablement gagner l'Oscar. Le nom de l'acteur m'échappe, mais il a gagné le Golden Globe.
On y reviendra possiblement dans le bloc culturel.
J'espère. À la une de la presse, des évacuations barbares. Barbare est écrit entre guillemets. Souffrant, paniqué, souvent incapable d'expliquer ce qu'ils ressentent parce qu'ils ne parlent ni anglais ni français, des dizaines de jeunes Inuits évacués d'urgence par l'avion hôpital du gouvernement du Québec ne peuvent être accompagnés de leurs parents. Outrés, des médecins québécois montent au créneau. Une enquête de Nathalie Petrovski sur Iliane Gamache-Latourelle. Son papier s'intitule « Les mirages de la jeune millionnaire ». Analyse de Denis Lessard, le PQ est le sauveur. Point de suspension, Pelado se dit en réserve de la République. Et la chronique de Marc Cassivi, les leçons de Denis Villeneuve, Blade Runner 2049 obtient 5 sélections aux Oscars dans des catégories techniques. De jeunes Inuits ne peuvent être accompagnés de leurs parents dans l'avion hôpital du gouvernement du Québec, dénoncent des médecins et des leaders autochtones. Une mère courant derrière l'avion qui évacue sa fille défigurée par un chien. Un enfant paniqué qui se réveille seul en hurlant sous les néons d'une salle des urgences montréalaises. Un garçon isolé, incapable d'expliquer ses symptômes parce qu'il ne parle ni anglais ni français. Des médecins québécois montent au créneau et dénoncent le fait que des dizaines de jeunes Inuits sont séparés de leurs parents au moment le plus critique de leur existence, lors de l'évacuation médicale qui vise à leur sauver la vie. Dans une lettre collective obtenue par la presse, ils en appellent au ministre de la Santé. Dans leur lettre au ministre Barrette, le docteur Shane Hussein et ses collègues dénoncent un isolement des enfants qui peut compromettre leur traitement et nuire à leur sécurité. La lettre évoque aussi d'autres histoires d'horreur survenues dans les derniers mois. Une fillette qui a failli s'évader de l'hôpital parce qu'elle voulait retourner chez elle et un bébé tombé de sa bassinette faute de présence parentale. J'étais sous le choc, j'étais nerveuse, je ne savais pas ce qu'il leur faisait. Ils étaient aussi nerveux d'être évacués seuls, ils ne parlaient pas leur langue. C'est Alakou Kulialouk qui parle à propos d'une histoire où elle explique que le sujet ne fait pas l'objet de grandes protestations dans sa communauté parce que c'est quelque chose d'habituel maintenant. Les gens ne veulent pas nager contre le courant. Nous n'avons pas le choix. Du côté de Québec, on fait valoir que l'avion hôpital dispose de places et de personnel limité, tout l'espace étant maximisé pour prodiguer les soins aux patients instables qui demandent un transport et des soins immédiats. A fait valoir le ministère de la Santé, l'appareil compte 3 civières et 1 incubateur. Ce type d'argument n'émeut pas outre mesure ceux qui demandent un changement de politique. Il montre du doigt les autres provinces canadiennes comme preuve du réalisme de leurs demandes. Sauf exception où plusieurs patients instables sont à bord et alors on comprendrait, il y a toujours une place assise supplémentaire pour accommoder un proche de l'enfant, a affirmé la docteure Joannie Tremblay-Pouliot qui pratique dans l'important village nordique de Pouvirnitouk et se fait la porte-parole de ses collègues du Grand Nord. Il nous apparaît barbare, d'une part, de séparer le parent de son enfant, alors que celui-ci est dans un état grave et incertain, et d'autre part, de laisser ses enfants non accompagnés qui ne parlent qu'Inuktitut, seuls à l'urgence de Montréal, a-t-elle poursuivi. Les derniers rayons d'un soleil, d'un célèbre coucher de soleil. Après plus de 40 ans dans la vie des Québécois, la célèbre carte soleil amorce aujourd'hui la fin de son règne. La Régie de l'assurance maladie du Québec, RAMQ, a dévoilé hier la nouvelle identité visuelle de cette pièce d'identité bien connue qui ressemblera désormais au permis de conduire. Alors, Simon-Olivier Lorange en parle et il écrit « Photo de chasse ». L'anecdote n'est pas un secret très bien gardé. La photo que les Québécois brandissent chaque fois qu'ils vont chez le médecin est un souvenir de voyage croqué par le chasseur Robert Larivière en Abitibi en 1974. Louis Larivière, frère de l'artiste derrière le cliché, était l'un des cofondateurs de la jeune agence de publicité Cossette chargée de concevoir l'identité visuelle de la carte lancée en 1976. C'est lui qui a choisi cette image. Il est rare de voir l'une de nos réalisations perdurer aussi longtemps et rejoindre aussi largement, reconnaît Louis Duchesne, vice-président exécutif et directeur général chez Cossette. D'emblée, le nom « Carte Soleil » qui est passé dans l'usage n'était pas prévu. Le soleil et les sapins n'ont pas complètement disparu de la cuvée 2018, mais ils apparaissent maintenant dans une version pâlie en filigrane. Plus sécuritaire, à la RAMQ, on promet que la refonte assurera une sécurité accrue pour les usagers. On veut prendre les devants sur les faussaires, commente la porte-parole Caroline Dupont. On fait notamment appel à une encre optiquement variable qui change de couleur selon l'éclairage et à des images qui ne sont visibles que sous un rayon ultraviolet au recto et au verso de la carte. Madame Dupont assure par ailleurs que les cartes qui ne sont pas encore expirées, certaines sont encore valides pour 8 ans, demeurent sécuritaires. C'est pour ça qu'on les laisse en circulation, précise-t-elle. Ce n'est pas un hasard si la nouvelle carte ressemble au permis de conduire, car elle sera désormais produite par la Société de l'assurance automobile du Québec. Voie de contournement à Lac-Mégantic, le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, affirme qu'Ottawa est prêt à investir une somme substantielle pour la construction d'une voie de contournement du chemin de fer à Lac-Mégantic et qu'il tient à régler tous les détails de ce projet avant le 5e anniversaire de la tragédie ferroviaire qui a coûté la vie à 47 personnes en juillet 2013. Dans une entrevue accordée à la presse, le ministre Marc Garneau, qui se trouve en Israël, pour une visite de 3 jours, a indiqué hier que le gouvernement fédéral avait déjà mis de côté les fonds pour financer une bonne partie des coûts liés à la construction de cette voie et il presse le gouvernement Couillard de participer aussi au financement. Le gouvernement fédéral est prêt à contribuer un montant substantiel pour la construction d'une voie de contournement à Lac-Mégantic. C'est un dossier sur lequel je travaille depuis que je suis au ministère des Transports. La mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin, a salué l'annonce du ministre Garneau. « Nous avons un engagement clair de la part du gouvernement fédéral. C'est une grande nouvelle pour les Méganticois. Je vais vous avouer que je suis très émue. » Offre patronale rejetée. Possible grève dans le transport scolaire. Dans le secteur du transport scolaire, des travailleurs syndiqués affiliés à la CSN ont rejeté hier soir les offres patronales à 98 % et ont reconduit un mandat de grève. Ce mandat pourrait être mis en œuvre les 30 et 31 janvier prochains si aucune entente ne survient entre les parties d'ici là, a-t-on affirmé. Le syndicat des travailleuses et travailleurs de Transco CSN a soutenu que de trop maigres avancées avaient été réalisées et que les résultats obtenus hier soir réaffirmaient un refus catégorique de laisser l'employeur imposer des conditions salariales qui appauvrissent les membres. Le conflit de travail pourrait toucher près de 15 000 élèves répartis sur plus de 300 parcours scolaires, a soutenu le syndicat. Et pour terminer, les pêcheurs de crabes du golfe du Saint-Laurent devront réduire la quantité de cordes utilisées pour attacher leurs casiers afin de minimiser les risques d'empêtrement des baleines noires, une espèce en péril. Ils devront aussi signaler toute perte d'engins de pêche. Le ministre des Pêches et des Océans, Dominique Leblanc, a annoncé ces mesures de protection hier à Moncton. Elles toucheront environ 250 équipages qui pêchent le crabe des neiges dans le sud du golfe. 12 baleines noires ont été retrouvées mortes dans les eaux canadiennes en 2017, un nombre record. Au moins 2 des animaux qui ont subi une nécropsie étaient empêtrés dans des engins de pêche aux crabes. « On ne veut pas que des mètres et des mètres de cordes flottent à la surface », a déclaré le ministre Leblanc. Il dit avoir lui-même observé beaucoup d'équipements perdus ou abandonnés des semaines après la fin de la saison de pêche.
Marie-Lou repose sous la neige et je me dis, et je me redis de tous ces dessins d'enfants que neige pu préserver la fraîcheur de l'île. de Malou en bande dessinée. Je parcourais les bulles arrondies. Lorsque je me vis exclu de ces jeux érotiques, j'en fis une maladie. Marie-Lou se sentait prise au piège, tout droit de reproduction interdit. Moi naïf, je pensais que me protégeait les droits du copyright opéra mondi. Oh Malou, il fallait que j'abrège ton existence, c'est ainsi que Marie-Lou s'endort sous la neige carbonique de l'extincteur d'un incendie.
L'homme à la tête de chou, c'est le titre de l'album qui aborde cette pièce, un extrait de 1976, Serge Gainsbourg, Marie-Lou sous la neige.
Et en lien avec la chanson qu'on vient d'entendre, 24 heures sous la neige, le verglas et la pluie. Un cocktail météo de neige et de verglas a rendu la circulation dangereuse sur les routes et forcé nombre d'écoles à fermer leurs portes mardi dans plus d'une dizaine de régions du Québec. Si le pire est passé, les Québécois devront toutefois continuer à prendre garde mercredi aux chutes de glace en provenance des toits et des meubles. En plus de bien faire attention pour ne pas glisser sur la chaussée et les trottoirs alors qu'on voit deux... Je ris, mais c'est pas drôle. C'est pas parce qu'on risque, c'est drôle, comme dirait l'autre. Des automobilistes en train de gratter leur voiture, de déglacer le pare-brise. Une activité très populaire par les temps qui courent. La haine gagne du terrain. Les crimes haineux ont atteint un sommet en août, au plus fort de la vague de demandeurs d'asile irréguliers. CSDM, des stages payés pour contrer la pénurie de suppléants. L'Université de Montréal réaménagera ses cours pour libérer des finissants en éducation. Jeux olympiques, les pros absents, place aux hockeyeuses. L'équipe féminine devrait profiter d'une plus grande vitrine à Pyeongchang. Culture, la course aux Oscars. Blade Runner 2049 obtient 5 nominations, mais est absent de la course pour le meilleur film. Baccalauréat, le Québec accuse du retard sur le reste du Canada. Et libre-échange, le PTP s'invite à la table de renégociation de l'ALENA. L'arrivée en grand nombre de demandeurs d'asile l'été dernier a déclenché une vague de crimes haineux encore plus grande que celle suivant l'attentat à la Grande Mosquée de Québec, a appris Le Devoir. Au mois d'août 2017, le service de police de la Ville de Montréal a retenu et classé dans le classeur crimes haineux 42 signalements, surtout observés sur les réseaux sociaux, contre 31 en février. Au total, près de 250 crimes haineux ont été rapportés l'an dernier pour une moyenne d'environ 20 par mois. Selon Lynn Lemay, lieutenante détective chargée des enquêtes à la division crimes, prévention et sécurité urbaine du SPVM, le triste record de crimes haineux du mois d'août est dû à la grande attention médiatique portée sur les migrants, surtout d'origine haïtienne, qui arrivaient en grand nombre au Québec depuis les États-Unis. Mais les personnes d'origine haïtienne n'ont pas été visées plus que d'autres. C'est vraiment parti dans tous les sens, a-t-elle dit. Les crimes haineux, c'était autant l'extrême droite qui émettait des opinions qui pouvaient s'avérer des menaces que des gens de l'extrême gauche qui répondaient à ça. Serge Bouchereau, porte-parole du Comité d'action des personnes sans statut, parle d'une quantité sans précédent de commentaires et propos haineux. C'est toujours la même chose. On entend « ces gens-là viennent voler nos jobs, on devrait les foutre dehors », dit-il. Mais aucun de nos demandeurs d'asile ne nous a rapporté avoir été menacé physiquement. Les crimes haineux sont passés de 158 en 2016, de mars à décembre, à près de 250 pour toute l'année 2017. À quelques jours du 29 janvier, alors que sera commémorée la tuerie de la Grande Mosquée de Québec, la division des crimes haineux de la lieutenant-détective Lemay est sur le pied d'alerte. On va suivre ça de près et voir si la commémoration a une incidence, dit-elle. À son étonnement, cela ne semble pas avoir eu d'impact jusqu'ici. Des stages payés pour contrer la pénurie de suppléants. Voilà enfin une piste de solution pour venir à bout de la pénurie d'enseignants dès la rentrée de l'automne prochain. Des finissants en éducation de l'Université de Montréal viendront en renfort à la Commission scolaire de Montréal. Pour la première fois, leur stage final sera même rémunéré. Le Devoir a appris que la Faculté des sciences de l'éducation de l'UdeM a accepté de modifier l'horaire de ses cours pour libérer du temps aux étudiants de quatrième année qui veulent travailler à la CSDM durant la journée. Il y aura davantage de cours d'été ainsi qu'en soirée l'automne prochain pour permettre aux stagiaires de travailler le jour sans nuire à leurs études. Renseignements personnels piratés chez Bell. Bell Canada a visé mardi certains de ses clients que leurs renseignements personnels pourraient avoir fait l'objet d'un piratage informatique. La Gendarmerie royale du Canada confirme qu'elle enquête présentement sur ce dossier sans pouvoir donner plus de détails. La compagnie a également avisé le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada que ces données avaient été compromises. C'est ainsi la deuxième fois en 8 mois que Bell avise ses clients d'une fuite de renseignements personnels. Cette compagnie de télécommunications, parmi les principales au pays, avait ainsi révélé en mai 2017 qu'un pirate informatique avait obtenu illégalement 1,9 million d'adresses courriels actives et environ 1 700 noms et numéros de téléphone actifs. Ils sont au courant de la brèche de sécurité, ce qui est en soi bon signe, affirme le chercheur montréalais en cybersécurité, Olivier Bilodeau. Impossible, pardon, de savoir si cette attaque particulière aura ou a déjà des conséquences. À Davos, les femmes qui cachent la forêt, des mâles alpha. 7 femmes sur le devant de la scène des tables rondes en pagaille sur le harcèlement ou l'égalité salariale, mais seulement 21% de participantes, le Forum économique mondial de Davos reste un monde d'hommes. C'est sur une image très symbolique que s'est ouverte mardi la grand-messe annuelle de l'élite économique et mondiale dans la chic station de ski suisse, celle des co-présidentes de l'événement. Il y a là Christine Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire international, et Isabelle Kocher, patronne du groupe Engie, ainsi que Sharon Burrow, secrétaire générale de la Confédération internationale des syndicats, la première ministre norvégienne Erna Solberg, Fabiola Gianotti, directrice générale de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, Virginia Gini Rometty, patronne d'IBM, et l'activiste indienne Chetna Sinha. J'espère que nous pouvons prouver collectivement que même sans testostérone, il est possible de trouver des solutions aux problèmes du monde, a lancé la patronne du FMI. De la testostérone, Davos n'en manque pas. La proportion de participantes ne progresse que péniblement, 18 % en 2016, 20 % en 2017, 21 % cette année. Lors d'une table ronde en pleine discussion sur le leadership des femmes, l'activiste ougandaise rappelle aussi au Gotha de l'économie mondiale le sort de celles tout au bout de la chaîne de production, les ouvrières ou les domestiques, premières victimes de harcèlement et de violence. La Banque nationale a annoncé la construction d'un nouveau siège social à l'angle de la rue Saint-Jacques et du boulevard Robert-Bourassa sur une partie du terrain que vient d'acheter le développeur Broccolini. Ce projet donnera naissance à la plus importante tour de bureaux construite au centre-ville depuis 25 ans. Afin d'en assurer la réalisation, la Banque nationale s'associera à la firme Broccolini ainsi qu'à de nombreux autres professionnels, spécialistes et fournisseurs qui sont des clients actuels ou futurs de la banque. L'institution occupe présentement la tour 600 rue de la Gauchetière depuis le début des années 1980. Un élève a ouvert le feu mardi dans son école secondaire de l'État du Kentucky, tuant 2 adolescents et faisant 17 blessés avant d'être arrêté. Le tireur a été interpellé de façon non violente par un agent du shérif, puis placé en garde à vue. Il s'agit d'un élève de l'école âgé de 15 ans. Il sera inculpé de meurtre et de tentative de meurtre, a déclaré Matt Beaven, le gouverneur de cet État situé à l'ouest des Appalaches. Une lycéenne de 15 ans est morte sur place. Un autre lycéen, également âgé de 15 ans, a été mortellement touché par balle et est mort à l'hôpital, a ajouté le gouverneur. Et Justin Trudeau convainc un public conquis d'avance. Justin Trudeau n'a pas fait courir les foules au Forum économique mondial de Davos mardi, mais son discours axé sur l'égalité homme-femme et le progressisme a été plutôt bien reçu. Vous écoutez le quotidien des quotidiens, édition du 24 janvier 2018. Hélène Denis avec vous et restez là puisque après la chanson, il y aura la revue de presse du Journal de Montréal. Bonne journée.
S'assoyait sur un banc, j'écoutais le souffle charmant de sa bouche sur mon cou. Elle avait 2 fois mon âge, belle comme le printemps, comme un fruit dont on se lasse à peine 30 ans. Je m'allongeais à sa place, dans son lit parfumé blanc. Elle avançait gracieusement, glissant de sa robe. De sa robe, que j'aimais ses yeux félins quand elle me couvrait. Son corps tombait sur le mien, j'étais son homme, son jeune, son chum, comme un papillon qui naît, allongeant grande mes ailes, sortant de chez elle, ébloui de prendre le vent, plein de tendresse. Je me suis fait mal en tombant, plein de tendresse, mais je me suis relevé. J'avais pas encore 16 ans, j'étais amoureux. Je la voyais tous les dimanches dans sa robe de satin blanc. Dans le parc, on marchait ensemble. Elle s'assoyait sur un banc. J'écoutais le souffle charmant de sa bouche sur mon cou. Elle avait 2 fois mon âge, belle comme le printemps, comme un fruit dont on se lasse à peine 30 ans. je m'allongeais à sa place. Dans son lit parfumé blanc, elle avançait gracieusement, glissant de sa robe. Glissant de sa robe, que j'aimais ses yeux félins quand elle me couvrait. Son corps tombait sur le mien, j'étais son homme, son jeune, son chum, comme un papillon qui naît, allongeant grandes mes ailes, sortant de chez elle, ébloui de prendre le vent, plein de tendresse. Je me suis fait mal en tombant, plein de tendresse, mais je me suis relevé tout le temps. Ah, 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 oh, oh. J'étais amoureux.
De son album Sortir du bois, Claude Dubois, plein de tendresse. Erratum de ma part, non pas sortir du bois, sorti du bois.
À la une du Journal de Montréal en ce milieu de semaine, 66 $ pour enfiler une jaquette, un masque et des gants, une prime « jaquette » entre guillemets pour des médecins spécialistes. Quelqu'un qui semble un petit peu tanné de l'hiver, encore 148 jours avant l'été, point de suspension, alors qu'on voit, comme à la une du Devoir, quelqu'un en train de déglacer sa voiture. Le choc des idées, l'argent du cannabis et les libéraux, c'est une chronique de Mario Dumont. CAQ, difficile de rester au sommet, c'est une chronique de Rémi Nadeau. Et bien triste nouvelle, saut fatal, passionné de sensations fortes, Aimé Jean Saint-Hilaire Adam est mort tragiquement en Californie. Collision mortelle en plein vol, c'est vraiment un choc pour tout le monde. On savait qu'il prenait des risques en faisant du wingsuit, mais on ne s'attendait jamais à apprendre la mort de quelqu'un qu'on aime comme ça, a souligné la cousine de la victime, Marie-Anne Adam. En après-midi, lundi, Aimé Jean Saint-Hilaire Adam prenait part au championnat de la Wide Open Wingsuit Series à Perris, à plus de 100 km de Los Angeles. Pendant que l'homme de 27 ans planait à l'aide de sa combinaison ailée, un autre participant serait entré en collision avec lui, selon ce qu'a affirmé le responsable de l'aéroport de Perris au réseau CBS. Le natif de Ripon, en Outaouais, a poursuivi sa chute pour finalement s'écraser brutalement sur le toit d'une résidence d'un quartier résidentiel, environ 3 km de l'aéroport. Le meilleur ami de la victime, Simon Séguin-Beauchamp, avait de la difficulté à contenir ses sanglots après avoir appris la mort de celui qu'il considérait comme un frère. Depuis son jeune âge qu'il repoussait ses limites, a-t-il raconté. C'était un casse-cou et un travailleur acharné. Un meurtrier en cavale. Un meurtrier schizophrène s'est évadé de l'Institut Philippe Pinel il y a 2 jours et la mère de sa victime a peine à croire que le système a laissé sortir sans surveillance l'homme qui a charcuté son fils en le poignardant à 91 reprises il y a 7 ans. L'homme a été tué par Sean Brennan, 29 ans, qu'il avait pris sous son aile temporairement par pure gentillesse. Steve Brennan mesure 1,80 m, pèse 95 kg, a les cheveux rasés, les yeux verts et s'exprime en anglais et en français. « juste pour conclure sur cette nouvelle, toute information concernant Sean Brenham peut être transmise à la Sûreté du Québec en composant le 1-800-659-4264, 1-800-659-4264. Une prime de 66 $ pour chaque patient en isolement. Québec a versé près de 8 millions depuis 3 ans pour un extra de 65 $ que touchent les spécialistes en médecine interne chaque fois qu'ils s'occupent d'un patient en isolement, atteint d'une maladie contagieuse comme la grippe ou la gastro. Bien qu'elle existe depuis quelques années, cette prime est aussi méconnue dans le monde de la santé et dans le grand public que la controversée prime à l'assiduité qui permet à des spécialistes d'empocher 105 $ chaque fois qu'ils arrivent à l'heure le matin pour une intervention chirurgicale. D'autres travailleurs du réseau de la santé qui n'ont droit à aucune prime pour se vêtir de la même manière dénoncent ce traitement préférentiel. Pour le Dr Mario Dallaire, président de l'Association des spécialistes en médecine interne, cette prime se justifie par la lourdeur des cas. Quand les internistes vont voir des patients en isolement, on considère qu'ils vont voir des cas plus lourds qui prennent souvent plus de temps. Selon Mario Dallaire, ce supplément ne peut être facturé qu'une fois par semaine pour chaque patient. Les visites de contrôle qui ont lieu chaque jour ne donnent pas droit au forfait jaquette. De plus, certains médecins ne le facturent pas systématiquement. La moyenne des docteurs pense plus à soigner du monde qu'à remplir leurs factures, soutient le Dr Dallaire. L'ex-chef du Parti québécois, Pierre-Carl Péladeau, ne rejette pas la possibilité d'un retour en politique et se dit en réserve de la République. C'est ce qu'il a indiqué en entrevue sur les ondes d'ici Radio-Canada Première hier matin. Le président de Québecor refuse toutefois de s'avancer sur le moment où il pourrait tenter un tel retour. « Nous avons un chef au Parti québécois, c'est Jean-François Lisée. Je laisse le soin à mes collègues pour qui j'ai énormément d'estime de faire le travail politique », a-t-il ajouté. De plus en plus extrêmes, les phénomènes climatiques inhabituels vont gagner en importance. Depuis le début de l'hiver, le Québec a connu un inhabituel froid glacial en décembre, suivi d'un redoux hors du commun les 11 et 12 janvier derniers, qui a contribué à faire sortir des rivières de leur lit. S'ajoutent à cela quelques tempêtes hivernales d'envergure qui ont donné bien de la neige à pelleter aux Québécois, le tout souvent accompagné de pluies verglaçantes, comme ce fut le cas hier. Bref, un bien drôle de mélange météo. Ça va gagner en importance. La plupart des chercheurs sont cohérents là-dessus, avertit le météorologue Gilles Brien. Le réchauffement climatique se traduit par des hivers un peu plus doux, poursuit-il. On remarque aussi que les quantités de neige reçues diminuent également, mais viennent dans des épisodes plus violents. Plus que jamais, la population devra rester alerte et prendre au sérieux les avertissements, estime M. Brien. On l'a vu l'an passé avec le cafouillage de l'autoroute 13 lors de la super tempête. Il y a eu 300 chars qui sont restés pris. Les gens n'écoutent pas les alertes et les avertissements météo et ils prennent des risques, termine le météorologue. Marc-André Paquin prendra le chemin des cellules pour un coup de pied qui aurait pu être fatal. Il a plaidé coupable à une accusation de voies de fait grave hier avant midi au palais de justice de Shawinigan. Les faits remontent à septembre 2015 lors d'une altercation entre l'accusé et la victime au Festival Western de Saint-Tite. Marc-André Paquin estimait que Martin Caron se faisait un peu trop insistant pendant une discussion avec une de ses amies. Les esprits se sont échauffés, mais des gens se sont assurés de les séparer afin qu'ils n'en viennent pas au coup. Toutefois, Martin Caron se serait penché pour ramasser une peluche qu'il avait gagnée plus tôt dans la soirée. C'est alors que Marc-André Paquin lui a asséné un violent coup de pied à la tête. Et les géants pharmaceutiques sont de plus en plus attaqués pour leur rôle dans l'épidémie d'opiacés qui ravage les États-Unis. La ville de New York a assigné plusieurs d'entre eux en justice hier. Dans une plainte déposée hier devant la Cour suprême de l'État de New York, la municipalité attaque les sociétés Purdue Pharma, Teva, Cephalon, Johnson & Johnson et Janssen en leur réclamant $250 million pour aider à financer la lutte contre cette épidémie. New York s'ajoute ainsi à plusieurs centaines de juridictions. Well, she was just 17, you know what I mean. And the way she looked was way beyond compare. So how could I dance with another?
De la compilation Beatles Reimagined, c'était Edward Sharp and the Magnetic Zeros avec bien sûr cette reprise des Beatles, I Saw Her Standing There.
La tournée des journaux régionaux, dans le droit, une chronique signée Sylvain Saint-Laurent intitulée Pour ne pas oublier Jean Bernard. Un club de hockey senior de Tulsa qui doit emprunter une porte secrète de l'aréna de Buckingham durant les séries, de façon à ne pas se faire attaquer par des partisans en furie. Un garçon d'une dizaine d'années qui est retenu au sein de l'équipe d'étoiles réunissant les meilleurs hockeyeurs des 10 paroisses de Hall pour participer au tournoi PMU de Québec. Un bel après-midi d'été, lors duquel des centaines de spectateurs se réunissent au Parc Fontaine pour voir s'affronter les meilleures équipes de la Ligue de Balmol commerciale. Il y a quelque chose de franchement fascinant à relire les chroniques du regretté Jean-Bernard Rainville que le droit a publié pendant une dizaine d'années durant les décennies 1980 et 1990. Monsieur Rainville avait été embauché à l'époque pour s'adresser à une clientèle un peu nostalgique. Une fois par semaine, il donnait la parole à des personnages qui ont marqué l'actualité sportive régionale dans les années 1950, 60, 70. J'ai relu une quarantaine de ses papiers dans les derniers jours. Je vous le répète, c'est fascinant. Fascinant de lire des histoires qui parlent de quilles, de fastball, de ballon-ballet et de crosse pour comprendre que ces disciplines ont déjà fait l'objet de compétitions très sérieuses. C'est fascinant de lire tous ces noms. Dans une tartine de 800 mots, M. Rainville pouvait facilement invoquer une quinzaine de grands sportifs bien connus de tous. À son époque, il n'y avait pas d'écran de 60 pouces dans les sous-sols des chaumières. Les chaînes câblées spécialisées et le streaming n'existaient pas. À son époque, les héros sportifs brillaient localement. Ce qui est fascinant, c'est que l'Outaouais qu'il décrit a vraiment peu de choses à voir avec la région dans laquelle je vis aujourd'hui. Ça ne fait pas si longtemps quand on calcule les années. On a l'impression que ça fait longtemps quand on constate à quel point notre monde a changé, m'a dit un collègue légèrement plus expérimenté que moi, Pierre Jury, pour ne pas le nommer. Par association, Jean-Bernard Rainville fut lui aussi un personnage plus grand que nature dans le monde du sport. Avant de se greffer à l'équipe du droit, il connut une certaine forme de célébrité à titre d'annonceur de nouvelles sportives à la télévision de Radio-Canada. Il paraît qu'il était flamboyant, tant dans sa façon de s'exprimer que dans sa façon de se présenter. Son bulletin de sport, il le vivait. C'était lui qui jouait au hockey, au baseball, au football. Il donnait l'impression de faire partie de toutes les parties qu'il décrivait, m'a raconté un autre vétéran des médias, Michel Picard. Jean-Bernard, c'était une vedette. Les gens couraient après pour obtenir son autographe. Et il n'était pas prétentieux du tout. Il parlait avec tout le monde. Il appartenait au public, a-t-il ajouté. Personnellement, je n'ai pas vraiment connu M. Rainville. J'ai effectué mes premiers quarts de travail dans la salle de rédaction du droit en 1998, au moment où il publiait ses dernières chroniques. Nous nous sommes croisés dans les portes. Lors de nos rares conversations, j'ai pu constater qu'il avait conservé une certaine grandeur, comme s'il ne voulait pas qu'on oublie le personnage important qu'il avait déjà été. On l'a retrouvé sans vie dans son appartement la semaine dernière. Souvent, les gens qui vivent dans le public sont profondément seuls, m'a soufflé à l'oreille un autre géant de l'information d'ici. Quelqu'un doit forcément avoir une idée pour honorer sa mémoire. Ce serait bête de le voir partir sans lui rendre hommage. Dans Le Soleil, Jean-Marc Salvet, Lisée invite PKP à le rejoindre. Jean-François Lisée invite Pierre-Carl Péladeau à se joindre à son équipe pour les prochaines élections. Mais on comprend qu'il n'entend pas lui céder sa place de chef du Parti québécois. Monsieur Lisée fait-il contre mauvaise fortune bon cœur? À Trois-Rivières, il a invité Monsieur Péladeau à briguer un poste de député au prochain scrutin et à devenir ministre dans un éventuel gouvernement qu'il dirigerait. Dans une entrevue accordée à l'émission Médium Large de Radio-Canada plus tôt en journée, Pierre-Carl Péladeau n'a pas annoncé comme tel son retour au PQ, mais il s'est dit en réserve de la République. Il a souligné que la vie familiale et la politique sont conciliables. Il a noté que sa fille Romy, âgée de 9 ans, l'a encouragé à replonger en politique avant d'ajouter, comme pour minimiser ce qu'il venait de dire, qu'il ne sait pas s'il suivra ses conseils. Il s'est aussi dit loyal et attentif à la collégialité. « Je suis avec Romy. Lâche pas Romy », a lancé Jean-François Lisée en commentant les propos du patron de presse qui est aussi son prédécesseur. « Je pense que ce serait une bonne idée que Pierre-Carl Péladeau fasse partie de l'équipe du Parti québécois en octobre prochain. Il le sait que je souhaite qu'il revienne. C'est à lui de décider. La porte est grande ouverte. Je veux qu'il sache que le chef du Parti québécois, les militants du Parti québécois seraient très heureux qu'il fasse partie de notre équipe. Il faut avoir des équipes fortes. Veut-il revenir maintenant, plus tard? » M. Lisée l'invite à prendre une décision. Les signaux qu'il a reçus jusqu'à présent de M. Péladeau lui laissent cependant croire qu'il ne reviendra pas à court terme. Si Pierre-Carl Péladeau est apprécié de plusieurs au sein de la députation du Parti québécois, les députés serrent pour l'heure les rangs derrière Jean-François Lisée. C'est le message général qui se dégage d'une tournée téléphonique du Soleil. Dans le Nouvelliste, une renaissance prometteuse pour le Metal Fest. Le Trois-Rivières Metal Fest ne pouvait rêver relance plus spectaculaire. L'événement qui fête en 2018 ses 15 ans avait été mis en veilleuse pour les deux dernières éditions, mais il reprendra vie au cabaret de l'Amphithéâtre les 6 et 7 avril prochains. Les organisateurs ne s'en cachent pas, l'événement était rendu à la croisée des chemins et la possibilité de s'installer à l'Amphithéâtre Cogeco ne pouvait arriver à un meilleur moment. Né au Maquisard au début des années 2000, le Festival Metal a par la suite déménagé à la bâtisse industrielle du terrain de l'exposition, où il profitait d'une salle beaucoup plus grande mais aux qualités acoustiques laissant à désirer. Désormais, l'événement se tiendra dans une salle d'une capacité limitée à 600 spectateurs, mais aux qualités acoustiques très nettement améliorées. En plus, on pourra compter sur une équipe complète et très professionnelle pour assurer la présentation de l'événement, d'indiquer Jean-François Houle, co-organisateur du Metal Fest. C'est une amélioration énorme et je sens qu'on a désormais les éléments en place pour assurer le succès futur de l'événement. On a connu de très belles éditions par le passé, mais grâce à l'appui des gens de l'amphithéâtre, ça va être meilleur encore. Pour asseoir cette relance, le comité de programmation a effectué un boulot considérable, tablant sur sa connaissance de la clientèle, mais aussi du marché nord-américain. Une douzaine de groupes sont déjà engagés et deux places restent à être comblées dans la programmation de deux soirées. La tête d'affiche du tout sera sans doute Deicide, D-E-I-C-I-D-E. Groupe de death metal en provenance de Floride qui se produira le vendredi soir. Le lendemain, le groupe montréalais Despised Icon comblera les amateurs du style deathcore ou deathcore plutôt, dont il a été un leader international au début des années 2000. Il s'agit pour ce groupe d'un retour sur scène après une absence de 5 ans. Les organisateurs promettent de gros noms pour compléter la programmation de cette édition de la relance. L'événement jouit d'une forte cote de popularité depuis longtemps, explique Annie Richard, co-organisatrice. Et dans la tribune, Claude Plante, le DG de Sherbrooke, annonce sa retraite. La ville de Sherbrooke devra se trouver un nouveau directeur général. Yves Vermette a informé les élus et le personnel de l'administration municipale qu'il quittera ses fonctions à la mi-juin. Entré en poste en décembre 2013, M. Vermette prendra sa retraite après une carrière de 21 ans dans les Forces armées canadiennes, de 6 ans en consultation et de près de 15 ans à la ville de Sherbrooke. Annoncé un communiqué de presse diffusé en fin d'avant-midi mardi. La direction générale d'une grande ville a été une expérience humaine extraordinaire, a-t-il exprimé. Je garderai un très bon souvenir de tous ceux et de toutes celles avec qui j'ai eu le plaisir de travailler. Yves Vermette a commencé sa carrière municipale en 2003 à titre de chef de la section de l'approvisionnement pour devenir ensuite adjoint au directeur général adjoint à la gestion du territoire, puis directeur du service de l'entretien et de la voirie en 2006. On lui doit notamment la politique de viabilité hivernale de la ville de Sherbrooke et la réalisation de nombreux travaux majeurs de rénovation, notamment ceux du Palais des sports Léopold Drolet et des travaux de construction du centre de foire et du poste de police. M. Vermette a mis en place un programme d'amélioration continue et un plan d'optimisation qui permet maintenant des économies récurrentes annuelles de plus de 10 millions et en assurant le renouvellement des conventions collectives de tous les groupes d'employés, ajoute-t-on. Star de jazz, fait du bien ça. Un petit requin pêché à Saint-Fulgence, c'est dans le quotidien Patricia Rainville. Décidément, le Saguenay est rempli de surprises cet hiver. Un petit requin a été pêché à Saint-Fulgence dimanche. Il s'agit d'un aiguilla commun d'environ 3 pieds, capturé puis remis immédiatement à l'eau après la traditionnelle photo. De mémoire d'homme, c'est seulement la deuxième fois qu'un tel spécimen est capturé dans les eaux du Saguenay. L'histoire de pêche miraculeuse a été racontée au quotidien par le président de promotion pêche, Rémi Aubin, en soirée mardi. Le petit requin a été pêché à 13h dimanche au large de Saint-Fulgence. Oui, c'est vrai. Les poissons de fond sont également très imposants cette saison. Rappelons la prise notamment d'Olivier Trudeau qui a sorti une morue de 53 livres des eaux de la BDAA vendredi dernier. Assez impressionnant, n'est-ce pas, Jean-Sébastien?
Absolument, ça frappe l'imaginaire un peu.
Oui.